Previously.
Il binge-watchait déjà avant que ce soit cool. Alain Carazé revient pour vous sur des séries cultes.
Au menu aujourd'hui, au temps de la guerre des étoiles et du Mandalorian. Retrouvez-moi tous les mercredis dans Previously, le podcast de Télé-Loisirs, pour plonger dans une série phare que non seulement je vous raconte, mais dont je vous livre aussi des coulisses. Nous sommes en octobre 1977. Et oui, on a beau commencer une nouvelle année, moi je vous propose de revenir dans une année passée. Nous sommes donc en octobre 1977. Vous êtes là, dans un cinéma de quartier, dès le premier jour, à la séance d'après-midi. C'est tout moi, ça. Vous êtes assez impatient, car vous en avez beaucoup entendu parler.
Somewhere in space, this may all be happening right now. 20th Century Fox and George Lucas, the man who brought you American Graffiti, now bring you an adventure unlike anything on your planet. Star Wars.
Here they come. Coming too fast.
The story of a boy, a girl, and a universe.
En fait, vous allez même rester à la séance suivante, parce qu'à cette époque-là, c'était possible. Vous êtes suffoqué, la hype était bien en dessous de ce que vous avez vu.
Light years ahead of its time.
I am C-3PO, human cyborg relations, and this is my counterpart, R2-D2.
Hello.
Par contre, ce que vous ne savez pas, c'est que ce film, sorti en mai dernier aux États-Unis, va devenir une légende et va changer à tout jamais l'industrie cinématographique.
Star Wars, a billion years in the making, and it's coming to your galaxy this summer.
Plus de 40 ans après, Star Wars est devenu non seulement le chapitre 4 et rebaptisé Un Nouvel Espoir, mais Star Wars est devenu une franchise qui a généré 11 longs métrages, 9 chapitres de la saga et de films dérivés. Comme Previously parle de séries télé et pas de saga cinématographique, je ne vais pas pousser le bouchon jusqu'à vous sortir que les films reprennent les ingrédients d'un des ancêtres des séries télé, le serial cinématographique des années 40, et ses épisodes en chapitres parsemés de cliffhanger. Bon, ça serait un peu facile, hein. Donc c'est décidé, ce n'est pas de cette saga-là dont nous allons parler, mais de la saga télévisée. Parce que oui, Star Wars, c'est aussi une saga télé. Suivez un peu Previously, vous avez compris une constante dans le monde des séries. Elles ont quelquefois la chance de devenir la série phare d'un tout nouveau diffuseur. Sa série totem. La série qui va propulser la chaîne, dont peu de gens ont entendu parler jusqu'alors, dans les stratosphères du buzz, en faisant d'elle la chaîne qu'il faut avoir. The place to be, quoi. C'est par exemple House of Cards, qui est la grosse production qui a lancé Netflix. C'est Mad Men, qui a pour fonction de donner plus d'impact à AMC. C'est The Sopranos qui propulse HBO. Et c'est Star Trek qui a aidé au lancement de, non pas une, mais deux chaînes. UPN avec Voyageurs et CBS All Access avec Discovery. En France, eh ben c'est pareil. On ne compte plus les petites chaînes câblées qui ont émergé grâce à un Sex and the City chez Teva ou un Dream On chez Jimmy. Et vous vous souvenez peut-être que Twin Peaks était le programme phare de la 5 au moment de son relancement. À l'opposé, si vous regardez bien, c'est quand il n'y a pas de fiction phare que ça se plante. Enfin, pas toujours, mais souvent. À son lancement, la chaîne Pink TV ne parvient pas à décrocher les droits de la série phare du moment, idéale pour son public, Queer as Folk. À la place, on paye pour une énième rediffusion de Wonder Woman. Bon, c'est sympa, mais enfin, quand même. Et très proche de nous, la plateforme américaine HBO Max a énormément de mal à attirer des abonnés et est forcée de carboniser ses blockbusters pour tenter de remonter sa chute. Parce que la réunion de Friends, annoncée en grande pompe, n'a pas pu être produite pour le lancement du diffuseur. Donc dans ce contexte bien connu, lancer un nouveau diffuseur avec une grosse licence à succès, ce n'est pas simplement une bonne idée, mais vu les enjeux économiques, c'est une nécessité. Et quand vous êtes une majors company, que vous avez déjà absorbé une autre majors company, la 20th Century Fox, et donc tout son catalogue dans le but de lancer cette plateforme, que Marvel Productions est dans votre giron, que National Geographic va alimenter tous vos besoins en documentaire, et que vous détenez la saga cinématographique la plus énorme de toute l'histoire du cinéma, Moi, je vous dis, jeune entrepreneur de chez Disney, il y a l'embarras du choix, mais la question, elle est vite répondue. Disney Plus est lancé le 12 novembre 2019 aux États-Unis. Et ce même jour est lancé le premier épisode de la première série en acteur réel issu de la saga Star Wars, The Mandalorian. Et là, impossible de se planter. Si au succès de ce lancement d'une nouvelle et ambitieuse plateforme, on ajoute la concurrence d'une autre plateforme qui est lancée 12 jours plus tôt, Apple TV+, avec Reese Witherspoon et Jennifer Aniston en vedette de la série The Morning Show, plus l'attente faramineuse de tous les fans et enthousiastes de l'univers Star Wars, la première création originale Disney+, avait beaucoup sur ses petites épaules. Donc, on ne chipote pas sur la qualité, ni sur les moyens nécessaires.
Ils te détestent tous, Mando. Parce que t'es une légende.
2 mois, 8 épisodes qui sortent de façon hebdomadaire, 2 mois durant, pour établir et imposer une série Star Wars avec un personnage totalement inédit sur qui tout repose, The Mandalorian. Enfin, presque tout, parce qu'il n'est pas seul. Il y a une petite créature verte qui est aussi pas mal mise en avant.
Allez bébé, fais ton truc magique avec les doigts.
Mando, ou le Mandalorien, est un chasseur de primes. Il est calme, il parle peu, il est revêtu d'une armure, il porte un casque intégral. Il fait partie de la guilde des chasseurs de primes. Il possède un vaisseau, le Razor Crest. Il accepte donc des contrats, moyennant une récompense. Et son nom est Din Djarin. Et comme le veut l'ordre de Mandalore, il ne peut pas dévoiler son visage à une autre entité vivante. On se retrouve donc dans l'équivalent d'un western, se déroulant certes 5 ans après la chute de l'Empire, dans le film du Retour du Jedi, et il y a très longtemps dans une galaxie très très éloignée. Mais un western quand même, un sous-genre qu'on appelle le space western, avec des films comme Solo justement. En fait, si vous réfléchissez un peu, on est dans une version futuriste de « Au nom de la loi », « Wanted Dead or Alive », le mythique western qui révéla au monde un acteur surdoué qui avait pour nom Steve McQueen. Il y incarnait Josh Randall, un chasseur de primes qui déambule de ville en ville et qui tente de remporter des récompenses en capturant ceux dont la tête est mise à prix. Un personnage a priori peu fréquentable et antipathique, que le génie de McQueen rend attachant, troublant, sensible. Sauf que « Wanted Dead or Alive », c'était en 1958 sur la CBS. Là maintenant, on est en 2019. Encore plus proche du style de The Mandalorian et totalement dans le genre space western, il y a bien sûr Cowboy Bebop, l'animé de 1998 avec des chasseurs de primes qui sont appelés des cowboys et qui voyagent dans un vaisseau spatial, le Bebop, en 2071. Et pourtant, non seulement The Mandalorian est un western spatial, indubitablement, mais il reprend aussi un style narratif que l'on croit dorénavant réservé aux séries de procédurales des grands networks. Une nouvelle histoire à chaque épisode. Des stand-alone. Mando doit gagner de quoi réparer le Razor Crest ou récupérer des pièces qui lui ont été volées. Mando vient en secours d'une petite communauté terrorisée par un ver souterrain géant ou d'un village sous le joug de pillards ayant récupéré un AT-ST impérial. Il participe à une mission de sauvetage dans un vaisseau-prison, etc., etc., etc. Mando fait quelquefois équipe avec une mercenaire, ex-shock trooper, Cara Dune. Il se fait aider aussi, pour les réparations de son vaisseau, par Kuil, qui est un fermier vivant en solitaire, accompagné uniquement de ses droïdes. C'est le grand acteur Nick Nolte qui, dans la VO, prête sa voix à Kuil. Et Gina Carano incarne la Xena de l'espace, Cara Dune. Et c'est Apollo Creed, en personne, l'opposant puis allié de Rocky, qui devient ici le chef des chasseurs de primes, Griff Karga, à savoir le comédien Carl Weathers. Et Mando ? Qui se dissimule sous l'armure et le casque ? Eh bien, c'est Pedro Pascal, un acteur que l'on a vu dans Game of Thrones. Ici, conformément à l'ordre du Mandalore, on ne voit son visage que dans une seule scène de la première saison. Et le défi pour un acteur est de faire passer les sentiments de façon purement corporelle, ainsi qu'avec sa seule voix, car le casque de Mando dissimule aussi ses yeux. Donc, bye bye, le reflet de l'âme. D'un autre côté, comme Jon Favreau le rappelle, le monde de Star Wars est rempli de personnages extrêmement attachants qui ne sont pas sous une forme anthropomorphique, comme R2-D2 par exemple. Ah ben oui, ça lui R2-D2. Eh ben oui, en effet, John Favreau, il a pas tort. Et pourquoi donc je cite le petit ami milliardaire de Monica, Pete Baker, qui finit par faire de l'ultimate fighting dans Friends? Parce que c'est lui qui a eu l'idée, qui a pitché et qui est le producteur exécutif de The Mandalorian. Bon, il a d'ailleurs commencé à l'écrire alors qu'il était dans le très long processus de post-production de son film Le Roi Lion et que les scripts des 4 premiers épisodes ont suffi pour lui obtenir un feu vert. Bon, mais je vous taquine là, vous savez très bien que Jon Favreau est un réalisateur reconnu et réputé. C'est lui qui a mis en scène les 2 premiers films Iron Man, a confié le rôle de Tony Stark à Robert Downey Jr. et a donc lancé tout le Marvel Cinematic Universe. Respect total, monsieur Favreau. Je vais aussi mentionner à ses côtés à la création de la série Dave Filoni. Retenez bien ce nom, c'est une personne sur laquelle on reviendra, mais un peu plus tard. Mais en cette année 2019, ce que Favreau et tous les autres membres de l'équipe, devant et derrière la caméra, ce que Disney Plus cache consciencieusement, en ne révélant aucune photo, ce que le moindre article dans un TV Guide ou Entertainment Weekly ne fait pas la moindre allusion, c'est un autre personnage, une surprise totale qui clôture le premier épisode de la série et devient, dans les secondes qui suivent sa mise en ligne, un vrai phénomène qu'un paquet de gens vont spoiler sans vergogne, histoire de se gonfler d'orgueil vis-à-vis de leurs contacts sur les réseaux sociaux. Le personnage, la cible que Mando découvre et pour laquelle on l'a payé pour la ramener, de préférence vivante, c'est un enfant. C'est comme ça qu'on l'appelle dans la série. L'enfant. Pour le monde entier, c'est Baby Yoda.
Ce que c'est, je l'ignore. Mais ce qu'il peut faire, ça me rappelle certaines rumeurs. Ainsi ai-je parlé.
Tu sais ce qu'il compte en faire ? L'enfant vient avec moi. Il a toutes les chances de son côté.
Ayant découvert les pouvoirs de l'enfant, qui visiblement maîtrise la force, le Mandalorian va donc déroger à la règle. Et après avoir ramené son butin et touché la prime, il va récupérer l'enfant et s'enfuir avec lui. Voilà donc le fil rouge de la série. Et même si chaque épisode est une nouvelle aventure, le but est de fuir tous ceux qui veulent reprendre l'enfant, et principalement Moff Gideon, le commanditaire initial et le chef d'une faction de l'Empire qui, après sa chute, continue à tenter de le restaurer. Gideon, le méchant de l'histoire que l'on découvre vers la fin de la première saison, et qui est incarné par Giancarlo Esposito, qui était déjà un très 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 méchant dealer dans Breaking Bad. Devant cette menace, le Mandalorian se voit confier le destin de l'enfant par l'armurière mandalorienne.
De par le credo, tu es son père.
Qui est-ce qu'il traquait ?
L'enfant.
Ils continueront à venir.
Vous détenez une proie que je convoite. Elle a plus d'importance pour moi que vous ne pourrez jamais l'imaginer.
Tu dois le rendre à ses semblables.
Tu me demandes de parcourir la galaxie à la recherche de son foyer ?
Telle est la voie.
C'est donc sur le lancement de la quête de la saison 2 que se termine la saison 1. Écrite par Jon Favreau et produite par Kathleen Kennedy, la série est réalisée par des personnes comme Taika Waititi, des films Thor Ragnarok et Jojo Rabbit, Rick Famuyiwa, qui a été longtemps impliqué dans le film The Flash, ou Bryce Dallas Howard, la fille de Ron Howard, surtout connue pour ses rôles de Gwen Stacy dans les Spider-Man de Sam Raimi ou dans les Jurassic World. À leur disposition un décor incroyable, le volume, un mur vidéo où un décor, intérieur ou extérieur, est recréé et bouge en temps réel en fonction des mouvements de la caméra. Ils dirigent donc les acteurs tout en voyant l'environnement où ils se trouvent et bénéficient des reflets naturels de la lumière. On est très très loin de jouer devant un fond vert. De plus, en accord avec ce désir d'efficacité et de réalisme proche des premiers films de la saga, l'enfant, le bébé Yoda, n'est pas une image de synthèse, mais un personnage qui fonctionne via des animatronics, une version plus technologique du Yoda de l'Empire Contre-Attaque, qui était un Muppet manipulé par Frank Oz. Reportez-vous donc au Previously sur le Muppet Show pour en savoir plus sur le monsieur et ses créations. Et donc, tout comme Yoda, l'enfant existe bel et bien devant les acteurs et réagit avec eux. Il a coûté près de 5 millions de dollars. Écoutez le témoignage de Deborah Shaw, une des réalisatrices, à propos d'un des acteurs prestigieux qu'elle a eu à diriger, le mythique metteur en scène Werner Herzog.
Il y a eu ce moment bizarre et génial à la fois avec Werner. Il jouait avec le bébé et s'est mis à diriger le bébé directement. Je dirigeais donc Werner qui dirigeait une marionnette. Il lui disait « Il faut plus de magie, il faut davantage utiliser la marionnette ».
Et ça, vous pouvez l'entendre dans les documentaires concernant la production de la série qui sont aussi sur Disney+. La première saison de The Mandalorian a donc été un succès à tout niveau. Il a créé une figure adorable, Baby Yoda. Il propose un blockbuster pour chaque épisode avec des scènes d'action stupéfiantes et visuellement bluffantes. Il explore ses personnages avec de plus en plus de profondeur et il est parsemé de liens avec la saga tout entière. Et à la surprise de toute la profession, la série a aussi été nommée aux Emmy Awards dans la catégorie « Meilleure série dramatique ». Bon, elle n'a pas gagné, mais rien que le fait d'être nommée, c'était un événement. Elle a remporté 7 Emmy pour sa musique, ses effets spéciaux, ses décors. Preuve de la confiance que l'on donne à la série, la saison 2 a été officiellement confirmée en juillet 2019, donc avant même le lancement en novembre. Pour une première, c'est un coup de maître. Mais aurait-il pu en être autrement avec Star Wars? Parce que tout ce qui est décliné autour de cet univers est forcément stupéfiant et passionnant et aura un impact sans pareil à la télévision. Hein? N'est-ce pas? Hein? L'histoire d'amour et de haine, de gloire et de déception, de succès et de lamentable échec concernant Star Wars à la télévision commence la même année où le film d'origine, celui que vous avez vu en salle deux fois de suite là tout à l'heure, sort aux États-Unis. Preuve du phénomène absolument incroyable qu'il déclenche, la chaîne ABC va faire produire de toute urgence un documentaire pour son antenne. Un making-of, un grand, un vrai, qui fait une heure et sera présenté par les deux droïdes, C-3PO et R2-D2. Ce making of Star Wars montre les coulisses du tournage avec des interviews de George Lucas, de Gary Kurtz et les vedettes du film, Harrison Ford, Mark Hamill, Carrie Fisher et Alec Guinness. Le tout parsemé d'extraits spectaculaires car, ben oui, faut pas oublier, on est en 1977. Il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de YouTube, même encore pas de magnétoscope à l'époque. Donc, voir à la télévision des scènes d'un film, ben c'est une occasion unique. The Making of Star Wars est diffusé en prime time, 4 mois à peine après la sortie du film, et ce, le 16 septembre 1977. C'est-à-dire la première semaine de la toute nouvelle saison télé. Cette semaine-là démarrait les séries Chips, L'Homme de l'Atlantide et celle de Patrick McGowan, Rafferty. Et cette semaine-là était aussi diffusé le téléfilm Spider-Man avec Nicolas Hammond. Le même soir où était diffusé le Making of, CBS lançait sa nouvelle saison de Wonder Woman, puis sa toute nouvelle série, L'Âge de Cristal. Et c'est sans compter sur le retour de séries bien appréciées comme Super Jamie, L'Homme qui valait 3 milliards, Happy Days ou Les Drôles de Dames. Impressionnant, n'est-ce pas, hein? Mais s'il s'agit de la première création télé concernant Star Wars, et que vous pouvez d'ailleurs la revoir dans les bonus du coffret Blu-ray de la pré- et de la trilogie, la première création télé de fiction, donc avec un scénario, une histoire et des acteurs, arrive un peu plus tard, un an après, en novembre de l'année suivante, donc en 1978. Et là, les choses vraiment sérieuses commencent. Imaginé par George Lucas en personne, d'une durée de 2 heures et bénéficiant d'un budget de 1 million de dollars, voici donc...
The Star Wars Holiday Special. Starring Mark Hamill as Luke Skywalker. Harrison Ford as Han Solo. Carrie Fisher as Princess Leia.
Eh ouais, il se paye carrément tout le casting du film. C'est d'ailleurs la première fois qu'un nom apparaît au générique de Star Wars.
And James Earl Jones as the voice of Darth Vader.
L'idée de Lucas est de bâtir une histoire autour de la famille de Chewbacca le Wookiee. Ce téléfilm va donc nous présenter sa femme, son père et son enfant.
His father, Itchy. His son, Lumpy.
Cette production, a priori spectaculaire, est destinée à marquer la période Thanksgiving aux États-Unis. Et elle propose donc une toute nouvelle histoire des personnages du premier film, où les personnages tentent de rejoindre la planète des Wookiees pour y célébrer le jour de la vie, The Life Day. Évidemment, sur leur route, ils vont croiser des chasseurs impériaux et des Stormtroopers. Dit comme ça, ça peut sembler intéressant. Sur le papier, l'histoire écrite par Rod Warren, Leonard Rips, Pat Proft et Bruce Vilanch, Bruce Vilanch qui allait devenir célèbre et écrira pour la cérémonie des Oscars pendant 25 ans, est mise en scène par Steve Binder, qui succéda au réalisateur initial, David Acomba, qui quitta le navire en cours de route, devait à la fois être une aventure dans l'univers de la guerre des étoiles et aussi un show de variété, avec donc des chansons et des sketchs comiques. Et c'est là où le mélange ne prend pas. Il y a une chanson de Jefferson Starship, bon, pourquoi pas, même si ça semble un petit peu décalé. Il y a Béatrice Arthur, la Béatrice Arthur des Golden Girls, oui, en patronne de la cantina sur Mos Eisley. Bon, c'est intéressant. Elle va même figurer en couverture du numéro de Starlog, la fameuse revue mensuelle de science-fiction. La princesse Leila qui pousse la chansonnette. Bon, c'est vraiment quand même un peu limite, écoutez. A day that takes us through the darkness. A day that leaves... Ouais, elle chante vraiment sur la musique de John Williams. Et donc, comme on est dans un programme de variété, eh ben, c'est tourné en vidéo, en multiples caméras. Pour vous donner un peu l'idée, ça donne plus dans le genre d'une émission des Carpentiers, du style Top à Sylvie Vartan, qu'un nouveau chapitre de la saga. Pourtant, en plus du budget qui est carrément gigantesque, le tournage a duré un mois. La production a eu accès à des extraits du film, aux décors du film, aux acteurs et actrices du film, aux créatures de Rick Baker, qui en a rajouté deux nouvelles pour le programme, à la famille de Chewbacca qui a été mise au point par Stan Winston. On y découvre un nouveau personnage, Boba Fett. Ah ouais, ça y est, ça commence à résonner dans votre oreille de spectateur du Mandalorian. Hein. Eh ouais, Boba Fett, le chasseur de primes qui capture Han Solo pour le compte de Jabba le Hutt dans le film suivant, L'Empire contre-attaque.
I have two droids. We've come in search of a ship that crashed near here.
Maybe I can help you. I am Boba Fett.
Et déjà, dans ce film animé d'une dizaine de minutes, Boba Fett est un traître sous contrat pour Darth Vader.
Now that you've gotten their trust, they may take you to their new base.
This time we'll get them all.
I see why they call you the best bounty hunter in the galaxy.
Oh no, what will we do now?
Cette séquence animée en plein milieu de ce téléfilm est d'un excellent niveau. En fait, c'est même une très bonne surprise. Produite par Nelvana, une firme canadienne qui produira par la suite Babar, Beetlejuice, Les Aventures de Tintin et Les Bisounours, ils mettent donc ici en image une histoire écrite par Lucas avec des graphismes résolument modernes qui font un peu penser à Möbius, c'était à la demande express de George Lucas. Le résultat est bluffant, d'une rare efficacité, tout en ayant un style très particulier. Vous pouvez d'ailleurs voir cette séquence animée. Elle figure en bonus caché dans le coffret Blu-ray de que je vous ai déjà mentionné. Cherchez bien, parce que elle en vaut la peine. Le programme de variété, lui, n'a jamais eu les honneurs d'une quelconque édition officielle. Il est devenu mythique pour son côté kitsch et considéré comme une dévalorisation de Star Wars de l'époque. Les VHS pirates de ce qui demeure la première fiction Star Wars créée pour la télévision ont circulé pendant des années et maintenant sur Internet, vous pouvez le retrouver de façon tout aussi légale. Mais la qualité de cette séquence animée ne passe pas inaperçue. Quelques années après, elle donne naissance à une série. Une vraie, une série animée avec pour vedette C-3PO et la voix d'Anthony Daniels et R2-D2 et elle se déroule avant la guerre des étoiles. Tout comme dans le film, les deux droïdes se retrouvent embarqués dans des histoires de pirates, tiens, encore des pirates, de chasseurs de primes, de gangsters et ils sont chassés par l'Empire. C'est donc toujours Nelvana qui produit la série pour Lucasfilm. C'est donc toujours avec le style très étonnant de leurs séquences précédentes, même si les délais de production et les moyens sont là bien plus courts. Et c'est avec un générique chanté par... Je ne vais pas vous le dire tout de suite, à vous de deviner. Alors, vous avez trouvé? Ou alors j'appelle la police? Oh ouais, bon, c'est Stewart Copeland du groupe Police. Résolument axée sur l'action et l'aventure, Droids a cela de particulier qu'elle fonctionne par arc narratif. Et c'est carrément assez rare avec les séries animées. La première histoire est en 4 parties, on y voit même le retour de Boba Fett, la seconde en 5 épisodes, et ainsi de suite. 13 épisodes ont été produits, dont certains écrits par Ben Burtt, le responsable des sons et musiques des films. Et une aventure spéciale d'une heure a même été diffusée en plus des épisodes The Great Ape. Le Retour du Jedi, qui est produit en 1983, était non seulement le dernier de la trilogie originale de films envisagée par George Lucas, mais il introduit aussi de nouvelles créatures qui allaient donner lieu à de nouvelles productions pour la télévision. Mais ouais, je vais bien sûr parler des petits oursons qui peuplent la forêt de la lune d'Endor, les Ewoks. Warwick Davis, la future star de Willow, incarnait Wicket, l'Ewok. Il va reprendre du service l'année suivante dans un téléfilm de prestige, L'aventure des Ewoks, la caravane du courage. Si en France ce téléfilm est sorti au cinéma, comme un film dérivé de la saga Star Wars, ben en fait il s'agit bel et bien d'un téléfilm, diffusé par ABC en novembre 1984, écrit par George Lucas et produit par Tom Smith, l'ex-directeur de ILM. Le premier et spectaculaire téléfilm raconte les aventures de la famille Towani, échouée sur Endor et secourue par les Ewoks. Un an plus tard, on retrouve les mêmes personnages dans une seconde aventure, la bataille d'Endor, elle aussi diffusée sur ABC en prime time et chez nous au cinéma en décembre de l'année suivante. Un peu plus sombre que le téléfilm précédent, il voit toute la famille Towani exterminée par des maraudeurs et leur sorcière Charal. Non, rien à voir. À l'exception du petit Sindel qui s'enfuit avec Wicket et va tenter de survivre et de chasser les ennemis. Les Ewoks sont décidément les personnages idéaux pour la télévision. Parce que, en plus de deux téléfilms, ils vont être, à la rentrée 1985, les vedettes d'une série animée, une autre série, comme Droids. Les deux séries sont d'ailleurs programmées côte à côte, tous les samedis matins, sur la chaîne ABC. Si c'est aussi Nelvana qui produit cette série animée, il faut bien admettre qu'on se trouve là plus dans une version qui lorgne du côté des Schtroumpfs et autres gentilles séries enfantines. Pour être plus fédératrice, les Ewoks qui parlent l'anglais, ou français dans les versions de chez nous, et plus les cris de leur langue d'origine. Leur Gargamel à eux, bah c'est une sorcière qui s'appelle Morag. Les Ewoks ont duré, eux, deux saisons. Tout d'abord avec 13 épisodes d'une demi-heure, puis avec deux histoires de 10 minutes dans chacun des 13 nouveaux épisodes de la seconde saison. Et qui trouve-t-on au scénario d'un grand nombre de ces épisodes? Eh bien, surprise, Paul Dini, celui qui a donné naissance à la célèbre version animée de Batman, dont on vous a largement vanté les mérites et l'innovation dans le Previously consacré au Dark Knight. À la différence de la série Droids, les Ewoks ont, eux, bel et bien été diffusés en France, sur Antenne 2 en 1987. Mais comme je veille à votre bonne santé mentale, je ne vous ferai pas entendre la chanson de Dorothée pour cette version animée. Non, non. Après ces 5 fictions produites pour la télévision et majoritairement orientées et familiales, la saga Star Wars s'endort et la force se dissipe. Le temps passe, passe. Et la force renaît à la télévision en 2005. Vous la sentez? Vous sentez ce bruissement dans la force? C'est le signe qu'une nouvelle série en acteur réel est planifiée. Son titre reste secret, mais elle sera sombre. Et elle mettra en scène quelques-uns des personnages de la saga, comme Han Solo, Lando Calrissian, C-3PO et Boba Fett. Rick McCallum, le producteur en charge des projets pour Lucasfilm, entre autres des projets de télé, en parlait à l'époque à Romain Nigita.
Avec la TV series.
On est très impatients avec cette série télé car elle se déroule entre l'épisode 3 et 4. Durant ces 20 années où Luke grandit et notre histoire est focalisée sur les personnages. Ce n'est pas vraiment l'histoire qui compte. La série repose sur les personnages. C'est bien plus adulte car c'est pour les adultes. C'est bien plus sombre que les films ne peuvent se permettre de l'être. Car eux, ils doivent plaire aux jeunes enfants. Mais si vous êtes un peu plus âgé, ils sont conçus à l'origine pour des garçons de 8, 10 ou 12 ans. Mais la série télé, elle, est pour nos fans hardcore, qui veulent vraiment connaître des personnages et comprendre comment l'Empire fonctionne. C'est une métaphore de ce qui se passe dans l'Amérique de Bush depuis 6 à 8 années.
Et vous ciblez une chaîne en particulier, ABC, CBS, ou une chaîne du câble, comme Sci-Fi ou HBO?
Pour l'instant, rien n'est fait. Ça va dépendre. L'industrie de la télévision aux États-Unis est sur le point d'imploser. Les networks ont des difficultés à être dans leur cible. Les publicités sont zappées par le TiVo. par le câble, par les chaînes satellites. Donc, on n'est pas certain de ce que ce sera quand on commencera à faire la série. Sans doute fin 2008, avec une sortie pour la fin 2009. Probablement. J'espère vraiment que l'on connaîtra alors une vraie révolution dans la façon dont la télévision est vue. Car pour l'instant, ce que les gens veulent, c'est avoir leur programme, où ils veulent et quand ils veulent. Ils ne veulent plus être assujettis à une grille avec des horaires. Ils ne veulent plus être coincés sur le câble. Vous savez, peut-être que l'on produira la série pour Internet et vous pourrez la télécharger et la regarder sur votre iPod ou sur votre écran plasma, autant que sur votre smartphone. À mon avis, c'est la direction que prend la télévision.
Rick McCallum ne croyait pas si bien dire. Mais pas de chance, il est meilleur en prévision des tendances qu'en financement de séries télé. Parce qu'en effet, vous avez bien compris à travers ce propos que cette série n'est attachée à aucun diffuseur. C'est un projet du K-Film, un projet en l'air. Comme ça. Un pitch, vous allez me dire, bah pourquoi pas. Sauf que Lucas a très largement dépassé le stade du pitch. La série est envisagée pour 100 épisodes. Soit 5 saisons d'une série qui compterait une vingtaine d'épisodes tous les ans. McCallum engage des gens qui vont écrire non pas un, mais 50 scripts, 50 déjà écrits. Parmi les scénaristes, il y avait même Ronald D. Moore, le showrunner de Battlestar Galactica et de Outlander. Les équipes travaillent pendant un an sur les costumes et des décors, ainsi que sur les caractères design, toujours sans le moindre diffuseur et sans aucune notion de rentabilité financière. Parce que dans le monde des séries télé, c'est le diffuseur qui allonge les sous. C'est lui qui paye pour la série. Un président de chaîne payante qui aurait vu le projet aurait déclaré que celui-ci n'avait, et je le cite, « aucun sens financièrement parlant ». Le budget était totalement astronomique, on évoque plus de 5 millions de dollars par épisode, et 100% des droits revenaient à Lucasfilm. Le diffuseur n'aurait eu aucun mot à dire, parce que de toute façon, tout était déjà écrit, et n'aurait strictement rien récupéré des exploitations ou de la distribution de la série. Et il aurait été attaché à la série pour ses 100 épisodes. Le résultat de cette débâcle prend la poussière. C'est un gâchis de talent, de temps et d'argent. En 2012, Disney fait l'acquisition de Lucasfilm, et spécifiquement de l'univers Star Wars, pour la bagatelle de 5 milliards de dollars. La production de nouveaux films a été lancée, mais rien pour la télévision. Jusqu'au projet de la plateforme Disney+, et le lancement de The Mandalorian, dont la seconde saison vient de s'achever. Donc, oui, il s'agit de la première série en acteurs réels, mais il s'en est fallu de peu que Underworld, c'était le titre de travail du projet avorté, la coiffe au poteau quelques années avant. Avant de nous plonger dans la toute récente saison 2 du Mandalorian, je me dois, par souci de rigueur, vous mentionner les séries animées qui ont été produites dans le but d'occuper le terrain pour la franchise. Elles se déroulent la plupart du temps pendant les événements de la prélogie, les trois films racontant le passé d'Anakin Skywalker et de Obi-Wan Kenobi, et les mettent même en scène, dans des espèces de spin-off, donc, entre ces deux films. C'est Clone Wars en 2005, The Clone Wars en 2008, oui, c'est quasiment le même titre, Rebels à partir de 2014, mais bon, tout ça reste quand même assez anecdotique dans la saga Star Wars.
Anecdotique,
hein, vraiment, c'est...
Anecdotique, bah, vous... Arrêtez-moi ce podcast immédiatement.
Mais qui êtes-vous, monsieur? Enfin, mais vous êtes qui, vous?
Je suis Romain, la voix des millions de personnes que tu as fait hurler de terreur et qui n'est pas prêt de s'éteindre. À cet instant, je me devais de les aider. J'étais leur seul espoir.
Bon, alors, soit. Mais c'est quand même un peu cavalier, quand même, d'envahir comme ça mon podcast. Hein. Mais bon, si je comprends bien, vous êtes un apprenti Jedi. C'est ça, un peu, l'idée, hein, c'est ça? Donc, d'après vous, ces séries animées sont dignes d'intérêt, quand même?
Bien plus que ça, Alain. Pendant les jours sombres qui ont suivi la prélogie de George Lucas, les séries animées ont été la lueur d'espoir pour tous les fans de Star Wars. Elles ont fait grandir l'univers de George Lucas comme jamais auparavant. Ahsoka Tano, Bo-Katan, le Sabre Noir, la Guerre de Mandalore...
Ah ouais, ça me dit quelque chose ces noms-là, là. Ça me dit quelque chose ce dont tu me parles, là.
Eh ben, tout ce que t'as découvert dans The Mandalorian provient directement des programmes animés. Des pans entiers de l'univers Star Wars qu'il est impossible de saisir sans dévorer ces séries. Et tu voudrais les passer sous silence, après avoir passé 10 minutes à parler du Star Wars Holiday Special ?
Il est très bien, le Star Wars Holiday Special. Enfin, non, il est pas très bien, mais bon, ça va, j'ai compris. C'est comme pour Batman, The Animated Adventures, dont Thomas Barrichella nous avait parlé. Vous connaissez Thomas Barrichella, hein ? Ça vous dit quelque chose, très cher, bon ?
On se connaît.
Batman, ça vous dit quelque chose aussi, non ?
Je le connais un peu aussi, on est bons copains.
Bon, d'accord, jeune Padawan, nous allons donc détailler un peu ces séries, mais vous avez vu l'heure ? Ça fait déjà beaucoup de temps passé avec l'univers télévisé Star Wars. S'il y a encore plein de choses à retracer avec ces séries animées, et donc avec la suite de Mandalorian, je vais vous demander de patienter un peu, hein ? Quelques minutes, quelques heures, quelques jours. Vous allez patienter jusqu'à la semaine prochaine. Mais pour vous récompenser de votre patience, jeune Padawan, la semaine prochaine, nous pourrons entendre aussi Dave Filoni en personne, celui qui a été le responsable de la majorité de ces séries animées et qui est maintenant à la tête de ce Mandalorian. Donc, rendez-vous au prochain Previously. D'accord, Romain ?
À très bientôt, Alain.
Ce podcast est disponible en avant-première sur l'application Audio Now, puis sur les plateformes Deezer, Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict, Google Podcast, Castbox et Overcast.